Oscar Wilde porte comme souvent un petit chapeau melon. Ses cheveux courts lui donnent un visage rond. Son manteau en hermine est le signe d'un début de printemps assez froid. Une fine pluie tombe sur son costume en tuiles à carreaux. Sa cravate, elle, semble une victime que la brune affectionne particulièrement. Perché sur les marches d'un perron en marbre blanc, Wilde tire la corde de la cloche de l'entrée. Aussitôt, un majordome fin, sec, les cheveux grisonnants, tout à fait le type taillé pour ce genre de métier, ouvre la porte. Oscar est attendu. Installé dans une pièce, certainement agencée comme un boudoir, il est invité à s'asseoir sur un des fauteuils aux motifs fleuris et à prendre un thé. Les yeux fixés sur la bibliothèque, il s'étonne d'y trouver des Molière et des Victor Hugo en édition originale en français. Voilà quelqu'un qui a du goût et qui sait correctement dépenser son argent, pense-t-il. Il n'a pas vu le jeune homme qui s'est discrètement introduit dans la pièce. Il est grand et mince. Enfin, musclé serait certainement un mot plus juste. Oh, il a du style, du charme. On ne peut pas vraiment dire qu'il est beau. Du moins, pas pour les canons de l'époque. Les boucles dans ses cheveux sont grossières. Ses mains sont petites. Son visage, lui, n'est pas non plus d'une perfection absolue, mais un véritable magnétisme se dégage de son attitude. Il n'a pas dit un mot. Aussi, lorsque Wilde se retourne, il est surpris par l'intrus. Instinctivement. Comme seul un mystère de l'univers en est capable, au premier regard, l'un et l'autre tombent amoureux. Éperdument. Tout de suite. De la même manière que les planètes peuvent s'aligner. Cet amour-là, pur, égal, beau, compris d'eux seuls, les envahit sans aucune mesure ni avertissement. Ensemble, ils veulent tout de suite illuminer l'univers. Cette relation tout à fait réprimandable aux yeux de l'Église et de la morale, condamnable même, n'empêche pas les deux hommes de se montrer de manière ostensible. Ils mènent une vie débridée dans les quartiers chics de Londres. Le père du jeune marquis, l'un des hommes les plus influents du royaume, ne tarde pas à être mis au courant. C'est le drame, comme vous pouvez l'imaginer. Plusieurs fois, Oscar Wilde reçoit des courriers en provenance de cet homme qui le provoque. Devant le manque de réaction des uns et des autres, le vieillissant marquis n'a plus le choix. Il colle un procès au train de Wilde, ce qui va provoquer un véritable scandale. Mais vous allez me dire, à juste titre, que Wilde est marié à une femme à cette époque. Oui. Eh bien, leurs liens se sont distendus depuis plusieurs années déjà. Constance Lloyd, qui mène de son côté sa carrière d'une main de maître, est en proie au doute depuis quelque temps, avant que le scandale n'éclate. Face à l'éloignement de son mari, elle développe une jalousie très forte, mais ne se doute pas de son orientation sexuelle, du moins au début. Dans les premiers temps durant lesquels Oscar fréquente le marquis, Constance est en voyage en Italie. Elle devient l'une des premières photographes entre 1891 et 1892. À son retour, elle découvre qu'Oscar vit une vie quasi maritale avec son amant. Wilde est impoli envers elle en public. Et comme vous pouvez l'imaginer, les relations entre le trio deviennent difficiles. Constance écrit son désarroi à ses amis. Je n'arrive pas à déterminer si c'est ma faute ou celle d'Oscar, s'il est si froid avec moi et si gentil avec les autres. Ma chère, que dois-je faire ? Les rapports entre les amants sont houleux. Le jeune marquis quitte Oxford avant la fin de son cursus et pousse Wilde à dépenser sans compter. L'auteur essaie de s'en éloigner sans succès, puisqu'il part même en vacances avec eux. Au mois de novembre 1893, une caricature des amants est publiée dans la presse. La femme d'Oscar est désespérée. Elle écrit. Je suis très désemparée et inquiète, et personne ne peut m'aider. Je ne peux que prier pour l'aide de Dieu, ce que je fais maintenant la plupart de mon temps. J'espère que mes prières seront exaucées, mais quand ou comment, je l'ignore. C'est dans ce climat explosif que le 3 avril 1895 s'ouvre une procédure judiciaire après un premier procès en diffamation intenté par Wilde contre le père de son amant. Malheureusement, Oscar a perdu, et maintenant, le vieil aristocrate se retourne contre lui. Le parfum du scandale éclate. Le début de la chute d'Oscar Wilde aussi. Nous sommes le 6 avril 1895. Il est 9h du matin. L'écrivain Oscar Wilde vient d'être arrêté dans la chambre d'hôtel numéro 118 du Cadogan Hotel, un palace en plein cœur de Londres. De nombreux badauds sont témoins de cette incroyable arrestation. Le procès intenté contre lui aura eu raison de ce qu'il a toujours considéré comme étant le plus précieux, sa liberté. Deux autres procès se suivent, et le 25 mai de la même année, Oscar est condamné avec pour toile de fond son homosexualité. 2 ans de prison accompagnés de travaux forcés. Sa femme Constance et ses fils sont contraints à l'exil. Humiliation suprême, ils sont jetés en dehors d'un hôtel en Suisse. La cause, l'ignominie qu'évoque le nom de Wilde. Rabaissés et humiliés, leur mère prend alors une décision radicale. Ses enfants s'appelleront désormais Hollande, en référence à son frère. Ce changement est également lié aux nombreux courriers qu'elle reçoit. Ceux-ci sont loin d'être bienveillants et proviennent surtout des très nombreux créanciers de son mari, qui a accumulé les dettes. Elle écrit à sa médium en parlant de l'incarcération de Wilde. Vous m'aviez dit qu'après ce terrible choc, ma vie allait devenir plus facile. Mais connaîtrais-je le bonheur ou est-ce la mort qui s'annonce pour moi? Et j'en ai connu si peu. Ma vie a été coupée en morceaux comme ma main l'est par ses lignes. Dès que ce procès est terminé, je dois obtenir ma séparation de corps ou si possible, mon divorce, afin d'obtenir la tutelle des garçons. Quelle tragédie, lui qui est si doué. La totalité du mobilier de la maison de Londres est saisie et vendue aux enchères à la suite du procès. Constance, avant son exil, rend visite à son mari, le pressant de partir à l'étranger avant son deuxième procès. Une de ses amies écrit. Ils restèrent seuls pendant 2 heures. Je l'aimais beaucoup et j'étais peiné de la voir partir en larmes. J'ai appris par la suite qu'elle était venue avec un message urgent de son avocat le suppliant de fuir sans faute avant le prochain procès, qui serait sans doute sa ruine. Oscar est contraint par sa mère de rester et d'affronter les conséquences de ses actes. Il accepte donc la sentence et part en prison. L'amant d'Oscar, lui, est poussé à la retraite forcée durant plus de 3 ans, d'abord en France, puis en Italie. Wilde est broyé complètement par la prison et les travaux forcés. Au bout d'une année, il est autorisé par le directeur, privilège unique, à écrire. Un petit matériel lui est fourni. Une seule œuvre est publiée durant cette période. Un recueil de correspondances, notamment à son amant, De Profundis. Une seule autre sera publiée entre sa sortie et son décès. Toujours sur les thèmes sordides de l'incarcération. Comment briser un homme dont le seul crime aura été d'être différent des normes de son époque, d'être en avance sur son temps? Les années en prison sont des plus difficiles, des plus angoissantes aussi. Pour cette âme artistique est persuadée au plus profond d'être innocente de tout crime. 2 ans plus tard, en 1897, enfin, Oscar est libre. Il s'exclame 4 ou 5 fois sur le quai de la gare « Que le monde est beau !» Ses amis le pressent de se taire. Il vaut mieux faire bonne figure. La prison semble avoir donné à Oscar des élans religieux. C'est là que son côté spirituel, lié au catholicisme, a pris son essor. L'écrivain souhaite se faire baptiser, et plus encore, se retirer dans un cloître. Les jésuites qui l'a contacté refusent. Arguant son comportement déviant, il lui demande d'attendre encore au moins 2 ans. Son moral en est profondément touché. Voyant que sa vie en Angleterre va devenir des plus difficiles, il part lui-même en exil dans l'un des pays qu'il a le plus aimé, la France. Il s'installe près de Dieppe, en Normandie, et prend le grand air. C'est là qu'il change de nom. Il se fait désormais appeler Sébastien Melmotte, en référence à un roman de Mathurin, l'un des fondateurs du mouvement gothique en littérature. Le prénom, lui, est en lien avec l'un des personnages qui le fascine le plus, Saint Sébastien, un martyr de la religion catholique. Oscar Sébastien vit sous la tutelle d'un ami et son comportement est marqué du sceau du traumatisme vécu en détention. Ses ressources, pour le moins maigres, ne l'empêche pas de dépenser beaucoup trop. Il ne peut rester seul. Pour autant, son ami doit rentrer à Londres. Wilde reçoit un billet de son ancien amant et, malgré les mises en garde de ses proches, souhaite le revoir. Sa femme, elle, est revenue en Angleterre et combat la maladie, en plus d'être éprouvée par cette histoire qui l'assaille depuis des années. Elle verse néanmoins une pension à son mari. Malgré les injonctions, les deux amants se retrouvent à Rouen à la fin de l'été 1897 et partent pour la campagne, près de Naples, en septembre. Leur train de vie est aisé, malgré des revenus limités. Bientôt, à bout de nerfs, la femme de Wilde met ses menaces à exécution et lui coupe les vivres de manière définitive. Les amants s'enfoncent dans la pauvreté. La chute est dès lors vertigineuse. La déchéance dans laquelle Oscar Wilde glisse alors est sans fin. Solitude et misère sont au cœur des derniers mois de la vie de cet auteur extraordinaire. Converti au catholicisme in extremis, comme nous l'avons vu, sous protection financière de certains de ses amis, dont fait partie notamment André Gide, il ne quitte plus la capitale. Malade, sans le sou et seul, il s'éteint le 30 novembre de l'année 1900 au 13 rue des Beaux-Arts, au cœur de Paris. Entouré de quelques amis fidèles, il prononce ses derniers mots. Ou c'est ce papier peint qui disparaît, ou c'est moi. Eh bien, c'est lui que la mort décide d'emporter, et non ce fichu papier peint de sa chambre. Les causes de sa mort sont difficiles à établir. Oscar n'a que 46 ans. L'hypothèse la plus probable est celle d'une méningite consécutive à une syphilis devenue chronique. Jamais il n'en aura montré les symptômes. Ses médecins pensent, eux, que c'est lié à une ancienne suppuration de l'oreille droite maltraitée par le passé. S'il s'éteint dans la misère, Oscar Wilde devient une figure de légende de la littérature mondiale. Après un enterrement de sixième classe, le plus modeste possible, afin d'éviter la fosse commune, ses restes sont finalement transférés au Père Lachaise durant l'année 1909. Son tombeau est inspiré d'un taureau ailé assyrien dont la sculpture d'origine est aujourd'hui conservé au British Museum de Londres. Une légende populaire veut qu'une partie de la pierre tombale de Wilde devienne de plus en plus rose les années passant. La raison ? Les couches de rouge à lèvres des admiratrices venant embrasser la pierre froide, recouvrant le corps du poète. Miséreux dans la mort, immortel dans la grandeur de ses textes, voilà qui était Oscar Wilde, ou Sébastien Melmotte, selon votre préférence.